Nous vous retrouvons en direct du lycée La Solée à Saint-Marcellin pour cette émission spéciale dont le thème est, je vous le rappelle, être vertaco en 2026 à l'heure du changement climatique. Et vous êtes donc bien sur Radio Royan et 93 FM. Nous allons maintenant nous attaquer à une deuxième partie dans cette émission. Et il s'agit donc du cœur de notre sujet, le changement climatique et la transition écologique. Et on poursuit donc sur ce thème en compagnie de Lucie et de Salma.
Le réchauffement climatique dans le Vercors, comme tous les massifs montagnards, il n'y échappe pas. Parmi toutes les personnes que nous avons interviewées, nous avons constaté que cette thématique est omniprésente. Pour vous donner un ordre d'idée, Mehdi Lopez, technicien ONF que nous avons rencontré, nous a rappelé que les montagnes se réchauffent plus vite encore que le reste de la planète, avec une possible hausse de 7 degrés dans ces zones d'ici 2100. Cela va donc fortement pénaliser les activités économiques dans ces régions. Prenons donc Christophe Cabrol, un cordonnier travaillant à la corde d'en haut, qui est affecté professionnellement par le réchauffement climatique. Il nous informe que la pratique du sport, liée à son métier, dépend fortement de l'évolution du climat. Je vous propose désormais de vous installer et d'écouter son témoignage.
Dans quelle mesure le changement climatique a-t-il eu un impact sur votre activité ? Est-ce que c'est plutôt une opportunité ou un frein pour vous ?
C'est une très bonne question. Je pense que le changement climatique, il a un impact sur la vie autour de mon activité, donc les communes, les villages dans lesquels moi je vis et d'autres personnes aussi. On a la chance, nous, d'avoir une activité, encore une fois, qui s'est développée au niveau national. Donc on subit moins les saisons, on subit moins, du coup, l'impact climatique. Surtout que moi, je n'ai pas voulu aller dans l'activité ski sur la réparation. Donc on le subit par rapport à des périodes, si par exemple il fait mauvais ou il y a des grosses tempêtes, on va recevoir moins de travail puisque les gens vont moins pratiquer leur sport. Le Covid, on l'a subi aussi, même si ce n'est pas un lien direct avec le changement climatique, peut-être indirect, mais ça c'est un autre débat. On a une activité qui dépend effectivement de l'évolution climatique au niveau national. Donc si dans des régions il fait beaucoup trop chaud, les gens vont moins pratiquer leur sport. Donc ça, on va le ressentir. Mais on a la chance de pouvoir équilibrer puisqu'on travaille avec toute la France. Mais effectivement, le changement climatique, on le perçoit, je dirais, sur un côté plus professionnel et personnel où il faut quand même qu'on fasse attention à la consommation d'eau, qu'on fasse attention au tri de nos déchets, etc. Donc ça, c'est plus du bien vivre dans des espaces comme les nôtres sur le Vercors.
À ce sujet, François Richard, le président de Vercors Citoyens, a quitté son sud-ouest natal pour aller passer sa retraite à Villard-de-Lans dans le Vercors, un territoire authentique et préservé dont il est tombé amoureux. Il se désigne avec une pointe d'humour comme « réfugié climatique ». De la même façon, Mehdi Lopez ressent beaucoup ce changement climatique, vu qu'il travaille sur le terrain. Il est technicien à l'Office national des forêts et il s'occupe de plusieurs missions. Elles vont de l'accompagnement des publics dans les forêts à la prévision des coupes. Est-ce que ça vous plairait d'écouter un petit extrait de son interview ? En espérant que vous seriez curieux de l'écouter, comme nous l'avons été.
Observez-vous depuis quelques années des changements au niveau des forêts du Vercors en lien avec le changement climatique ?
Bonne question, merci de l'avoir posée. Alors oui, clairement, l'adaptation de nos forêts au changement climatique, c'est l'enjeu majeur de la foresterie du siècle qui vient. Concrètement, dans le Vercors, on observe un effet un peu retard par rapport aux dégâts qui sont déjà observés sur le territoire métropolitain. Par exemple, si vous allez dans le Bugey, en Belledonne, il y a des pans entiers de forêts qui sont en train de mourir. Silencieusement, puisqu'on n'entend pas un arbre mourir, ça ne fait pas de bruit. Mais ça va à une vitesse prodigieuse. Les forêts de montagne sont majoritairement constituées de résineux, pour 80%, en général 80-85%. Et ce sont des arbres, en l'occurrence pour les citer l'épicéa et les sapins, qui ont de très hautes exigences en termes de pluviométrie, c'est-à-dire d'eau, et de fraîcheur. Et tout ça, ça va très mal avec un paramètre et des prévisions qui nous disent que le changement climatique qui vient, qui est réparti sur l'échelle du globe à environ 3 degrés d'ici la fin du siècle, eh bien, en fait, il va être plus sévère en montagne que nulle part ailleurs. Sur la surface des océans, on va avoir peut-être plus 2 degrés. Sur le littoral, plus 3-4 degrés. En montagne, on prévoit plus 7 degrés à l'horizon 2100. Ça, c'est simplement catastrophique pour l'environnement forestier. Lors des précédents changements climatiques que notre histoire a connus, les glaciations, les réchauffements, la faune et la flore ont une capacité d'adaptation bien plus ample et plus aisée. Pourquoi ? Parce que ces glaciations se sont étalées sur des millénaires, voire des centaines de milliers d'années. Donc, de proche en proche, les arbres avaient la capacité, avec la fructification, hein, de remonter ou de redescendre en latitude ou en altitude. Seulement, la course contre la montre qui est engagée aujourd'hui, elle est très défavorable aux arbres. Le réchauffement climatique va beaucoup trop vite. Les arbres n'ont pas le temps de remonter, par exemple, du littoral méditerranéen jusqu'à nos montagnes. On le sait, on connaît leurs exigences écologiques et on connaît la courbe de réchauffement de température qui ne leur laissera aucune chance si les pires prévisions du GIEC s'avéraient réelles.
Ainsi, il nous a dit qu'il constatait l'intensification du réchauffement climatique sur les forêts et que cela pouvait conduire à la mort des arbres qui, ne pouvant remonter à des altitudes plus élevées par manque de temps, mouraient en silence. Ce passage m'a beaucoup marqué, car il m'a fait comprendre que même les arbres essayaient de s'adapter à cette nouvelle donne climatique et qu'ils risquaient de mourir, et ce, par notre faute. Ces explications m'ont beaucoup interpellée. Mais Di Lopez nous a aussi précisé que, pour préserver nos forêts, il fallait d'abord apprendre à les aimer. Ainsi, il nous encourageait à nous promener en forêt afin que notre intérêt pour elles nous pousse à les défendre. Maintenant, nous allons écouter un poème sur la forêt, déclamé par Nino, Mélissa et Lily.
Je pénètre dans la forêt, déjà. L'âcreté du feu des bûcherons, la suée de la pluie et le vert du vent. Le soleil entre les flux, la course figée de l'écureuil et le chêne noirâtre.
Le molto mosso d'un chouca, l'agitato des mouches et le rouge d'un pic. Le léger âpre des myrtilles, le doux sucré des fraises et le bleu du torrent. Les lanières luisantes du bouleau, la ferme rugosité du grès et le blanc des orties.
Je pénètre dans la forêt me pénètre. Arrivé sur la crête, un nuage se disperse jusqu'à disparaître.
Néanmoins, malgré toutes les preuves scientifiques, il reste des personnes qui refusent de croire au changement du climat ou à l'impact que cela aura sur eux. On appelle cette position le climato-scepticisme. Yves Siama, un journaliste scientifique qui a déjà écrit pour des journaux tels que Science et Vie ou Le Monde, nous donne son point de vue dans cet extrait.
J'ai l'impression que le public sait l'urgence climatique. Je pense qu'il y a des gens qui, comme je vous le disais tout à l'heure, sont dans le déni. Mais je pense que la grande majorité du public sait l'urgence climatique, mais un sentiment d'impuissance. Et a l'impression de la subir un peu comme une espèce de catastrophe quasiment naturelle. Et moi, ce que je voudrais faire passer comme message, en fait, c'est qu'il n'est pas trop tard, c'est qu'on peut encore faire plein de choses, c'est que bien sûr, on n'échappera pas à un certain réchauffement, mais que par la politique, par l'associatif, par... dans une moindre mesure nos actions individuelles, il est encore temps d'agir sur le climat et qu'on peut vraiment faire une différence tous, chacun, et encore plus collectivement. Fake news de base qui est qu'il ne se réchaufferait pas, alors on l'entend de moins en moins, mais moi j'ai quand même entendu ça tout le temps. En fait, soit on nous dit qu'il se réchauffe pas, soit on nous dit qu'il se réchauffe, mais c'est pas la faute des humains ou des activités humaines. Et moi, j'ai fait ma première une de Science et Vie sur le climat en 2003. Donc en 2003, je me souviens, on avait pris 50 pages de Science et Vie pour expliquer le réchauffement climatique. Aucun d'entre vous n'était né. Mais nous, on avait déjà toutes les données. Et voilà, et que aussi longtemps après, il y a encore des gens avec tout ce qu'on voit qui refusent d'y croire. Il y a plein d'explications à ça, mais ça m'exaspère quand même. Ça me donne envie de parler encore plus fort pour qu'ils entendent.
Ainsi, comme vous l'avez entendu, le changement climatique affecte de différentes manières la vie des habitants du Vercors. Mais loin d'être découragés, ils gardent et nous ont transmis l'espoir, car même face au bouleversement climatique, il est possible de réagir, d'agir et de trouver un équilibre.
Et oui, pour trouver cet équilibre et tenter de s'adapter, de nouveaux modèles économiques émergent. On va se pencher tout de suite sur cette question avec Axel, Edan et Raphaël, qui vont prendre pour exemple la situation de Michael Rivoire, qui est boulanger des Pins du Vercors.
Nous voulions trouver une activité qui touche tous les Français, peu importe leur âge. Les métiers du pain. Cela semble peut-être anodin, mais c'est en réalité un des piliers de l'alimentation d'aujourd'hui comme dans le passé. Et comme nous allons vous le montrer, ce n'est pas une activité épargnée par le changement climatique. C'est là que notre chemin croise celui de Michael Rivoire, fondateur de la boulangerie Les Pins du Vercors, installée à Autran-Méaudre. Son histoire est originale à travers son amour pour le pain, qu'il cuisinait autant pour sa famille ou ses colocataires. Le choix du lieu, relevant d'un enchaînement d'opportunités, est devenu une évidence pour cet ancien forestier. C'est ce que nous allons voir dans ce premier extrait.
Bonjour, merci beaucoup. Alors effectivement, quand on est boulanger, s'installer, ça veut pouvoir dire, par exemple, trouver un local quelque part et puis s'installer en centre de village pour avoir une boutique et tout ça. Et nous, la réflexion, elle était vraiment très différente. On a une volonté d'avoir une activité qui est au service des gens, mais jusque dans les hameaux, un peu partout. Notre pain, c'est avant tout un pain qu'on voulait bon pour la santé, donc on le fait au levain et ça fait du coup un pain qui se conserve aussi. Donc on a tous les jours un allumage du four, parce que j'ai pas précisé, mais on travaille au four à bois. Ouais. Le pain sort du four, déjà, il est pas avant 9h. Donc pour une boulangerie conventionnelle, enfin traditionnelle, qui a une boutique, l'habitude c'est plutôt d'ouvrir à 7h et de proposer des baguettes et tout ça. Donc voilà, nous on n'a pas ça. Au-delà de ça, on propose pas non plus de viennoiserie, pas de pâtisserie, donc c'est assez original. On a un fonctionnement comme ça qui est un peu original. Notre intérêt, c'est de partir en livraison et d'aller approvisionner plein de petites épiceries dans les communes. Du coup, ça nous rend accessible. En fait, c'est nous qui allons vers là où les gens ont l'habitude de prendre faire leurs achats. Et donc, trouver un local, c'est pas facile sur le Vercors. Et donc, notre intérêt à nous, c'était de se regrouper, en fait, d'être dans un lieu collectif pour pouvoir, collaborer avec d'autres activités et pas être tout seul à faire notre boulangerie de façon standard. La Jolie Colo est extrêmement en réseau et, en fait, ça, immédiatement, ça nous rapporte un plus en tant que boulanger. Nous, finalement, on se retrouve à être intégré dans un tissu d'activités.
Il s'agit donc d'une boulangerie qui propose des produits bio de mention nature et progrès. Donc, cela signifie que tous les ingrédients sont issus de fermes locales et rigoureusement sélectionnées. Les Vertaco, dignes de confiance, ont grâce à lui et à son équipe une distribution quotidienne de pain dans les villages avoisinant la boulangerie. C'est le sujet de notre deuxième extrait.
Ça fonctionne vraiment sur la confiance. Alors ça, je pense que c'est une chance qu'on a ici, dans un territoire comme le Vercors. Et contrairement à des boîtes qu'on voit maintenant beaucoup se développer, il faut obtenir un code avec le smartphone ou quoi, on ouvre une porte de façon à distance, etc. Bon, c'est des équipements qui coûtent très cher. Donc là, nous, on a juste une boîte en bois. Et les gens viennent chercher leur pain là-dedans. Il n'y a pas eu de vol, ça fait des années et des années. C'est assez beau de voir ça, finalement, que c'est possible. Et on en a qui sont en plein cœur de village, hein, donc Des centaines de personnes passent devant et voilà, il y a un respect de ça. C'est le pain des gens et voilà, il est en libre accès, on va dire.
Michael Rivoire a fait le choix d'utiliser le moins d'énergie fossile et, bien que contraignant, ce choix correspond plus à ses valeurs et à sa préoccupation pour l'écologie. Car étant dépendant du tourisme pour la vente de son pain, il s'inquiète de la baisse future du nombre de skieurs faute de neige suffisante. Mais comment faire pour avoir une production conséquente tout en restant le moins polluant? Nous y apprendrons les coulisses de la fabrication du pain tout chaud qui nous arrive tous les jours pour le bonheur de nos familles. C'est en tout cas le sujet de notre dernier extrait. Vous utilisez le four à bois comme moyen de cuisson. En quoi est-ce écologique?
Le four à bois, nous, c'était donc effectivement un choix assez fort. Tout peut dépendre de quel bois on brûle. Nous, on a fini par trouver, en fait, un scieur, c'est un menuisier qui est aussi scieur à Corançon-en-Vercors, qui, du coup, compresse des sortes de petites bûchettes de copeaux. C'est un peu comme les granulés de bois, mais c'est un gros format, ça fait la taille du poing. Et donc, on brûle ça. Alors, l'avantage, c'est qu'à la base, pour eux, c'était un déchet, on va dire. Et le gros avantage, c'est que ça permet du coup de brûler des bois du Vercors, parce qu'eux, ils s'approvisionnent qu'ici, en ultra-local, sur le Vercors. Et donc là, en ça, ça a un aspect écologique très fort. Par contre, ce n'est pas un choix pratique du tout. C'est complexe et ça fait un peu de fumée, de la suie. On met des masques à certains moments de la journée. C'était un choix écologique d'abord.
Pourquoi utiliser un moulin de type astrillé avec des paysans meuniers ?
Alors, on a mis en place, là, petit à petit, une petite micro-filière, effectivement, sur le Vercors, pour faire un peu nous-mêmes la farine. Donc, on a monté une petite structure avec des paysans, en stockant le blé sur place et en faisant la mouture. Comme on est en bio, effectivement, on ne travaille qu'avec les fermes bio, on arrive à en convaincre, ça y est, il y a des gens qui sont en conversion grâce à nous, donc ça, c'est chouette aussi. Et voilà, c'est une micro-filière. L'idée, ce n'était pas non plus que cette micro-filière, elle appartienne qu'à nous. Et donc, on prit des parts dans le moulin, les agriculteurs, des magasins bio, des particuliers, quoi, des citoyens. C'est une sorte de petite coopérative. Et donc, elle appartient à tout le monde. Et alors, du coup, un moulin à meule de pierre, le gros intérêt, c'est que ça déroule le grain d'une façon qui est assez douce, sans chauffer la farine. Et au final... ça a été assez prouvé qu'on obtient une farine très nutritive, très, très saine, très, très riche. Et on arrive à faire tout notre levain avec, ça fait déjà un bon tiers de notre pâte, faite sur le Vercors, et à partir de blé, produit sur...
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la mention Nature et Progrès ? Peut-être que certaines personnes elles, ne connaissent pas.
Ouais, effectivement, c'est beaucoup moins connu. Alors, curieusement, c'est même plus ancien que le bio, ça existait avant. C'est... un cahier des charges, il y en a un cahier par production. Donc nous, on est soumis au cahier des charges de la boulangerie. Et puis, il y a une charte. Et alors, voilà, ça prend tous les aspects en compte de notre activité. Déjà, il faut absolument qu'on soit 100% en nature et progrès. Ça prend en compte des éléments sociaux, par exemple. On peut pas être un gros industriel qui exploiterait des salariés en étant nature et progrès. Ça prend en compte les emballages, les déchets, l'énergie qu'on utilise. On n'aurait pas le droit d'avoir un four à gaz ou électrique en Nature et Progrès.
Donc, est-ce qu'il est complexe pour vous d'assurer toutes les livraisons dans le secteur
Mais dans une société qui privilégie la quantité à la qualité, il n'est pas toujours évident de vendre des pains à des prix moins élevés. Alors, préférez-vous la santé ou l'argent ?
Merci à tous les trois, donc Axel, Edan et Raphaël, qui nous proposaient donc cet exemple de l'entreprise de Mickaël Rivoire, les pains du Vercors. Mickaël, dont ils ont pu d'ailleurs goûter le bon pain, puisqu'il en avait amené lors de son interview. On passe maintenant à un autre exemple d'adaptation donc économique à cette nouvelle donne que représente le changement climatique. C'est celui de la Cordeau d'en haut, dont vous nous parlez Donovan, Lucas et Ilyes.
Nous avons eu la chance d'interviewer Christophe Cabrol, qui a monté son entreprise de cordonnerie à Méaudre, la Cordeau d'en haut. La Cordeau d'en haut est une entreprise de vente et ressemelage de chaussons d'escalade, de chaussures de montagne, de canyoning Bestar et de matériel technique. Elle comporte deux membres, dont Christophe Cabrol.
Ce qui nous a touché, c'est de voir cet artisan passionné qui redonne vie à un métier ancien et peu considéré, la cordonnerie. Christophe Cabrol propose de réparer au lieu de remplacer, ce qui a un fort lien avec notre projet concernant le changement climatique. De plus, son atelier s'inscrit dans une démarche de développement durable. Il utilise des matériaux de qualité qui permettent de prolonger la vie des chaussures de randonnée ou de ski. Ce cordonnier insiste sur la proximité et l'ancrage de son entreprise dans ce territoire montagnard. La Cordeau d'en haut est aussi un lieu de vie et d'échange, bien plus qu'un commerce. Écoutons ce que Christophe Cabrol a à nous dire.
Mon activité de cœur, c'est la cordonnerie. C'est là où je me définis le mieux. C'est un sens pour moi d'utiliser des produits qui sont usés, de les réparer, de leur permettre une seconde vie et d'éviter d'acheter sans arrêt, de surconsommer. Voilà. Ça, c'est vraiment un sens profond. Après, c'est un peu contradictoire avec l'activité vente qu'on a développée. Mais ça, c'est surtout parce que sur le plateau du Vercors, on a une très forte pratique, on a une très forte demande. Et moi, je ne voulais pas que les gens soient obligés de descendre dans une ville d'un côté, Grenoble ou Valence, pour pouvoir acheter un bout de corde ou un mousqueton ou autre. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce complément d'activité. Mais la cordonnerie reste mon cœur de métier. Oui, alors seconde main, c'est un peu délicat, parce que c'est un peu du coup par coup. des gens qui veulent plus de leurs produits mais veulent pas non plus le jeter. Donc c'est une démarche qui se développe mais qui reste quand même marginale par rapport à la vente de produits neufs. Et pareil, le vendre seconde main, c'est aussi pouvoir permettre à des personnes qui ont peut-être moins de budget ou qui ne veulent pas investir autant que dans du neuf, de pouvoir quand même pratiquer leur sport favori.
Concernant le Vercors, Christophe Cabrol a un point de vue très pessimiste sur son avenir. D'après lui, à Autran et Aude, le développement du tourisme a pris trop de place. Il dit aussi que Autran a des problèmes au niveau du logement devenu inaccessible, ce qui contraint les jeunes couples à quitter le plateau. On écoute un extrait où il détaille ses problématiques.
Moi, je suis très pessimiste en fait pour l'avenir du Vercors. Et c'est pour ça aussi que je me suis engagé. Donc moi, je suis élu là, sur ce mandat qui vient de commencer. Je suis élu sur la commune d'Autran-Méaudre. Je me suis engagé parce que pour moi, on a une vision qui est beaucoup trop touristique. Et alors oui, le tourisme nous fait vivre. Moi, mon activité en dépend aussi. Par contre, si on veut du tourisme, il faut qu'il y ait des personnes qui accueillent, il faut qu'il y ait des personnes qui vivent dans nos villages, qui fassent fonctionner nos commerces, nos services, etc. Et on s'est trop préoccupé de multiplier ce tourisme qu'on a voulu peut-être en trop grand nombre et on a mis de côté un peu trop les habitants. Et là, on se retrouve dans une situation où en fait, les jeunes couples avec des enfants quittent nos communes parce qu'elles n'ont plus moyen de se loger, parce qu'elles n'ont plus de moyens de travailler. Et donc, on a des classes d'école qui ferment chaque année. On est dans une dynamique qui est complètement négative. Donc, pour moi, l'avenir sur le Vercors, si on ne le prend pas à bras-le-corps, il est assez, je le vois plutôt négatif dans la dizaine d'années à venir.
Qu'est-ce que vous pourriez proposer au niveau de votre mandat pour améliorer cela ?
Alors, c'est dommage que vous ne soyez pas venu à nos réunions publiques. Mais... Non, en fait... Pour nous, le projet essentiel de ce mandat, c'est autour du logement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans nos communes, toutes sont liées, de près ou de loin, au logement. C'est pour effectivement accueillir des personnes qui veulent s'installer sur le Vercors, parce qu'elles travaillent à Grenoble ou ailleurs, mais qui veulent s'installer sur le Vercors.
Voilà donc pour cet exemple de Christophe Cabrol et de son entreprise La Cordeau d'en haut, qui, je vous le rappelle, donc propose notamment le ressemelage de chaussures d'escalade. Et on va faire une petite pause dans cette émission en direct donc du lycée La Solée, une petite pause musicale avec un titre d'Aurel San, Baise le monde.
Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31, juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain, tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcher en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie que des mannequins, c'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie, influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées selectes. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette, pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui n'ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcher en l'air vers le ciel. Baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette.
Wow, 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 c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi ce survêt? Il sort 12 survêt.
Un indien payé 2 euros par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et trame.
direction la Roumanie, yeah. Où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah. Pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoutent des mecs qu'on paye une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher. Et putain, y'a un mec dans la soirée calme, même ça valait pas la peine. Nouveau survêt, tu sur mon 31. C'est pas le 31, juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcheur en l'air vers le ciel. Baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. Na 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 na.
Poursuit cette émission depuis le CDI du lycée La Solée à Saint-Marcellin en direct. On a un petit peu chaud aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés et c'est un contexte tout à fait propice pour parler réchauffement climatique. Et on va continuer donc tout de suite l'émission en abordant une autre partie donc, de ce projet d'éducation aux médias. On va évoquer en fait les dessous en quelque sorte de ce projet scolaire. Donc on parlait du fait d'être vert taco en 2026 à l'heure du changement climatique, mais ça a été l'occasion donc, pour les élèves de réaliser un travail journalistique sur ce thème. Et ils vont nous raconter leur expérience et analyser en fait leurs propres pratiques. Durant ce projet, on va écouter tout de suite Kaoutar, Gaëtan, Lilou, Léane et Maude qui vont nous expliquer comment ils ont mené leur enquête.
Nous allons vous raconter les coulisses de notre enquête sur le réchauffement climatique et de ses conséquences sur notre quotidien, sur notre environnement et tout particulièrement sur le Vercors, majestueux massif dont nous pouvons admirer chaque jour les contreforts depuis Saint-Marcellin.
Pour commencer, notre travail d'apprenti journaliste, nous avons d'abord cherché des informations fiables sur le sujet. Pour cela, nous avons cherché des articles dans des journaux réputés tels que Le Monde.
Mais le plus important était d'arriver à identifier des habitants du Vercors pour répondre à nos questions. Nous voulions recueillir des avis de personnes venant d'horizons très divers, comme des artisans, des commerçants, des artistes, des sportifs, sans oublier des personnes engagées en faveur de la protection de l'environnement. Il nous a alors fallu être convaincants dans les messages à leur envoyer, que ce soit par email ou via les réseaux sociaux, pour qu'elles acceptent de nous rencontrer.
Malgré plusieurs refus que nous avons essuyés, nous avons eu la chance de décrocher une interview avec des acteurs emblématiques du territoire vertacomicorien. Un boulanger, un cordonnier, un journaliste scientifique, un libraire, un technicien de l'Office national des forêts, un photographe, mais aussi un ancien sportif professionnel reconverti dans le secteur de l'hôtellerie.
Pour préparer ces interviews, nous devions connaître la personne avant de la rencontrer, en consultant des articles de presse, des vidéos, leur site internet ou leur compte LinkedIn, nous avions déjà une idée de leur parcours et nos questions seraient d'autant plus précises et pertinentes.
Voilà donc pour le récit des élèves sur leur démarche journalistique. Merci à tous les cinq. Et on va poursuivre donc toujours sur cette question du travail journalistique, mais cette fois-ci avec le témoignage d'un journaliste qui s'appelle Yves Siama, qui est journaliste scientifique notamment à Science et Vie, Reporter ou encore Le Monde, et qui va nous donner donc son avis, comment est-ce qu'il vérifie l'information.
Et du coup, comment vérifiez-vous vos informations, surtout dans un contexte de désinformation climatique?
Bah, c'est un métier, hein. C'est-à-dire que moi je suis payé pour trouver des informations justes et pour ne pas me tromper. J'insiste un petit peu là-dessus parce que souvent les gens se disent « bon bah... Il y a des choses qui sont écrites dans les journaux, puis il y a des choses qui sont écrites ailleurs, sur le net ou dans des livres. Et puis tout ça, ça a un peu la même valeur. Il faut tout lire et choisir ce qu'on croit et ce qu'on ne croit pas. Mais prenez la mesure que quand on est journaliste, en fait, on est dans une entreprise dont le but est de ne pas se tromper. Alors, bien sûr, il y a des journaux d'opinion, il y a des journaux qui font en fait qui ont la forme de journaux, mais qui ne font pas vraiment du journalisme. Mais en tout cas, sachez que dans une rédaction, nous, quand on se trompe, c'est la honte, en fait. Moi, quand j'écris, je vérifie parce que j'ai peur de l'erreur. Et si je me trompe, va y avoir des gens qui vont écrire, qui vont dire non, mais là, page 3, Siama, c'est pas du tout le bon chiffre, il s'est trompé de 2-0, etc. Et mon chef va me faire venir dans son bureau et il va me dire j'ai reçu 3 lettres qui prétendent que tu t'es trompé là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut qu'on s'excuse? Et c'est très désagréable tout ça. Et puis après, les collègues, ils le savent. Si vous avez un journaliste qui bâcle un peu, qui écrit un peu vite, qui vérifie pas et qui fait des erreurs, ça se sait très vite. C'est comme dans toutes les professions, les erreurs circulent. Et donc, nous, on a un truc réputationnel. C'est pas juste pour avoir de la promotion ou quoi. C'est parce que quand on est dans un métier, en plus un métier un peu passion, comme ça, on a envie d'être bon et que les autres vous ressentent comme étant bon. C'est-à-dire, genre, si Siama a écrit ça, c'est que c'est vrai, il n'y a pas à vérifier. Enfin, c'est ça qu'on voudrait dégager. Et donc, comprenez qu'un journaliste, il peut avoir ses opinions, mais il ne peut pas facilement écrire de choses fausses. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important dans mon métier et que j'essaye d'expliquer parce que ce n'est pas toujours visible de l'extérieur.
On va poursuivre en écoutant toujours donc Yves Siama. À l'avenir, le journalisme va devoir s'adapter en fait à une nouvelle donnée importante, c'est l'omniprésence de l'intelligence artificielle, l'IA. Et les élèves ont donc interrogé Yves Siama à ce sujet. On écoute tout de suite un extrait.
L'IA va-t-elle menacer le travail du journalisme? Comment vous voyez l'avenir du journalisme?
Alors récemment, je discutais avec une collègue qui m'a dit une phrase qui m'a beaucoup plu. Elle m'a dit... Les journalistes ne seront pas remplacés par l'IA, ils seront remplacés par d'autres journalistes qui savent utiliser l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on accepte que c'est un outil qui va devenir de plus en plus présent dans notre métier, mais que probablement, ce n'est pas un outil qui va tuer le métier. On verra. Moi, je me méfie des prédictions, mais je pense que c'est une bonne direction pour travailler. Je pense aussi qu'il y a quelque chose avec l'IA que les gens ne mesurent pas, c'est que ça ne restera pas gratuit. C'est-à-dire que là, on est tous sur l'IA, on lui pose des questions parfois parfaitement inutiles qui nous demanderaient 2 minutes à résoudre autrement, parce que c'est gratuit. Et en fait... Vous savez, les industriels de l'IA, ils font comme les industriels de la cigarette. Ils commencent par distribuer, puis quand tout le monde est devenu addict, après ils disent « maintenant on va monter le prix ». Et donc c'est ça qui va se passer avec l'IA. L'IA consomme beaucoup d'énergie et on est dans un monde où l'énergie est en train de devenir de plus en plus chère. Et particulièrement ces dernières semaines, mais de façon générale. Et donc ça ne sera pas possible... de demander éternellement à l'IA n'importe quoi pendant des heures. Il y a un moment où on va nous faire payer tant la minute d'IA. Et je ne sais pas combien sera ce temps, mais il existera. Et à ce moment-là, il faudra se poser la question de qu'est-ce que je fais avec l'IA et qu'est-ce que je fais sans, et comment est-ce que j'économise mon temps d'IA. Et voilà. Et ça, ce sera des questions particulièrement importantes pour les journalistes.
Voilà donc pour l'avis d'Yves Siama, qui est journaliste, donc sur l'avenir en quelque sorte du journaliste qui devra s'adapter à l'intelligence artificielle. Et on se dirige maintenant vers la fin de cette émission qui portait sur le thème « Être vertaco en 2026 à l'heure du changement climatique » et qui une émission qui a été réalisée par les élèves de première SES du lycée La Solée à Saint-Marcellin. Et ça a été l'occasion pour ces élèves à la fois de s'ancrer dans le territoire du Vercors, de se poser cette question cruciale et très actuelle des effets du changement climatique sur ce territoire et sur ses habitants et ses habitantes, mais également, donc, on l'a vu, de s'intéresser aux pratiques journalistiques à travers leur expérience et leur rencontre avec à la fois le monde de la radio et puis le journaliste Yves Siama. Et avant de terminer cette émission, nous avons été rejoints autour de la table par Marie Seine, qui est documentaliste au lycée La Solée, et par Pierre-Michaël Fichet, qui est professeur en sciences économiques et sociales. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Ils vont nous proposer quelques remerciements, je crois.
Alors, notre aventure radiophonique touche à sa fin, et c'est le moment de remercier toutes les personnes qui y ont participé. Alors, tout d'abord, un grand merci à notre partenaire, Radio Royan, sans qui rien de tout cela ne serait possible. Merci aussi à nos invités qui ont eu la gentillesse de nous accorder de leur temps pour se prêter à l'exercice pas toujours facile de l'interview. Leur passion pour le Vercors, ce territoire à protéger, est communicative et je suis sûre que les élèves auront été touchés par cet attachement très fort à ce territoire. Je tiens aussi à remercier mon collègue Pierre-Michaël Fichet, avec qui je travaille depuis 3 ans sur des projets d'éducation aux médias. Il a su me faire partager sa passion pour la montagne et le Vercors et je l'en remercie très chaleureusement.
Nous tenons également à remercier nos financeurs, au premier rang desquels la région Rhône-Alpes, mais aussi le lycée La Soleil de Saint-Marcelin. Une mention toute spéciale pour ma collègue documentaliste Marie Seine, qui m'a embarqué dans ce projet radiophonique il y a maintenant 3 ans. Un grand merci à elle de m'avoir proposé cette très belle opportunité qui nous a permis de découvrir et de vivre de sacrées aventures en montagne, de Villard-de-Lans à La Grave, en passant cette année par Autran mais autres. Et pour finir, bien évidemment, un merci à tous les élèves de 1er SES2 du lycée La Soleil qui, durant cette année scolaire 2025-2026, ont rendu ce projet d'éducation aux médias dans le Vercors à la fois vivant et concret. Merci à eux.
Merci. On peut les applaudir. Bravo. Bravo.
Merci à tous les deux, donc Marie Seine et Pierre-Michaël Fichet qui faisaient, je crois, leur premier pas au micro.
Effectivement.
Donc, pour ces remerciements. Avec une mention spéciale à Marie qui, je crois qu'on peut le dire, part à la retraite cette année. Donc merci Marie. Oh, les élèves n'étaient pas au courant, pardon. Merci également à Patrice à mes côtés pour la technique. Et donc effectivement un grand merci, un grand bravo à vous tous les élèves. Je mentionne juste que cette émission sera disponible à la réécoute sur radioroyan.fr donc, et sur nos différentes plateformes de podcast. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.
Quel est votre lien avec le Vercors ?
La moyenne montagne, c'est un territoire que je connais bien, j'y ai grandi. Donc c'est aussi un territoire dans lequel je me sens à l'aise. 1000-1500 mètres d'altitude, c'est quelque chose où je suis vraiment bien. C'est ma bonne place entre le ciel et la terre.
Être Vertaco en 2026 à l'heure du changement climatique.
Quel est votre parcours pour être arrivé quand même ici ? C'est quand même assez original.
Un projet sonore de la classe des premières en sciences économiques et sociales du lycée La Soleil à Saint-Marcelin.
Comment vérifiez-vous vos informations, surtout dans un contexte de désinformation climatique ?
Enquête et portraits sonores sur le territoire du Vercors et ses habitants autour de la transition écologique.
On n'entend pas un arbre mourir, ça fait pas de bruit, mais ça va à une vitesse prodigieuse.
Enfin, c'est un territoire passionnant, c'est presque, j'avais envie de dire, presque le meilleur, mais...
Pour finir, si le Vercors était un son, quel serait-il ?
Avec l'accompagnement de leur professeur Marie Seine, documentaliste, et Pierre-Michaël Fichet, professeur de SES.
Et l'appui de Radio Royan Vercors.
Au revoir.
Merci à vous, c'était un chouette moment.